RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La route du Tour de France, aujourd'hui la 18e étape est au programme des coureurs du peloton en direction de Pau. Nous sommes encore à 80 km de l'arrivée et une échappée qui a pris forme dès le début de cette étape, échappée composée de 5 hommes, Durbridge, Heyman, Terpstra, Bouda et Van Kersbult. Je le dis beaucoup moins bien que Frédéric Adam qui a l'habitude de nous parler de ces gars-là. Heyman tout à l'heure a été victime d'un incident mécanique, il a été attendu par ses compagnons d'échappée et l'écart continue d'être assez faible. Fred, moins de 2 minutes.
Ouais, c'est un métier hein, de faire le goûter à la pause de 16 heures.
Ça, je sens que tu le pratiques beaucoup mieux.
Ah oui, c'est quelque chose qui est répété chaque année, préparé avant le mois de juillet.
Ah, il faut.
Ouais, c'est un métier.
C'est une
science.
Même,
c'est une science. 80 km à parcourir avec toujours cette échappée de 5 coureurs, parmi lesquels un Français, Thomas Bouda, donc le Belge Van Kersbult, les deux Australiens Heyman et Durbridge, et le dangereux néerlandais Nicky Terpstra, le coureur de la formation Quick-Step, qui rêve d'aller offrir à son équipe belge un 5e succès sur les routes du Tour 2018, après les succès du sprinter Fernando Gaviria, les victoires du néo-grimpeur Julien Alaphilippe, maillot à pois, casque à pois, gants à pois rouge sur les routes du Tour. 79 500 km à parcourir et 1 minute 30 d'avance pour les 5 hommes de tête. Le peloton ne laisse rien partir. Il garde totalement à portée de fusil ses 5 échappés. Apparemment, on est décidé chez Groupama FDJ notamment et chez Emirates, les deux équipes d'Arnaud Démare et de Alexander Christophe, le Norvégien, on est décidé à faire de cette arrivée à Pau un paradis pour les sprinteurs. C'est souvent le cas d'ailleurs, mais pas toujours.
Qu'est-ce s'est-il passé?
C'était un chien, je crois, qui a failli traverser.
Oui, ouais, il y a un petit peu de flottement à l'avant. Peut-être que Pierre-Yves est avec ces 5-là, mais c'est compliqué aujourd'hui car l'échappée ne prend pas de marge. Pierre-Yves, où êtes-vous? Que voyez-vous?
On vient de passer effectivement derrière cette échappée où il y a eu un coup de frein à l'instant, ça a ralenti un petit peu et tout est passé maintenant dans une légère montée. On va essayer de s'approcher tout à l'heure des directeurs sportifs et notamment Dominique Arnoux, me semble-t-il, dans la voiture de Direct Energy pour Thomas Bouda, situé dans cette échappée depuis le début de la course. Les 5 hommes qui sont à nouveau tous ensemble là, ça roule pas très très dur en ce moment. Ça profite aussi du ravitaillement qui a précédé il y a quelques instants pour se réhydrater et manger quelques gels avant la fin de cette course. Il reste un peu moins de 100 km, mais il fait surtout toujours aussi chaud, 35 degrés, pas loin en tout cas sur la route du Tour.
Et on s'intéressera tout à l'heure à la chaleur hein, qui n'a jamais quitté le peloton depuis le départ de ce Tour de France. On le rappelle, dans des conditions climatiques idéales pour lorsqu'on est en vacances, mais un peu plus compliqué lorsqu'on est coureur du peloton. Qu'est-ce qu'on préfère, Jérôme? Qu'est-ce que tu préférais, toi? Des conditions sèches, chaudes, comme c'est le cas cette année, ou alors la pluie tout au long du Tour de France?
Non, personnellement, je préférais la chaleur et le soleil. Maintenant, c'est beaucoup plus éprouvant pour l'organisme. Depuis le départ, moi, j'ai fait plusieurs Tours de France, mais j'ai jamais eu grand soleil tous les jours. Et eux, ils ont grand soleil et surtout beaucoup, beaucoup de chaleur. Donc ça, pour les organismes, ça puise énormément d'énergie. C'est très dur à récupérer. Le cœur monte plus vite. Les efforts sont plus durs à faire. Donc ça peut expliquer aussi qu'on ait un tour peut-être un peu moins spectaculaire.
Un peu moins spectaculaire, moins de chutes, heureusement il y a eu moins de chutes, mais tout de même quand même certains coureurs sont allés tâter du bitume, et le dernier en date c'est donc Nairo Quintana qui tout à l'heure, on vous le rappelle, a chuté. Il est blessé au coude et à l'épaule et il a pu reprendre la route, il s'est fait soigner en route et donc est toujours, on vous le rappelle, 5e au classement général. On se dirige donc toujours vers Pau, on va peut-être on va continuer sur cette route tranquillement, peut-être s'intéresser quand même à Arnaud Démare. On en a déjà parlé tout à l'heure. Arnaud Démare, est-ce que après ces deux journées, Cyril, ces deux journées en galère où il a tenté de rentrer dans les délais, il aura récupéré aujourd'hui pour livrer le sprint? On rappelle que ses équipiers ont fait un gros boulot en tête de peloton pour limiter les écarts avec l'échappée. Est-ce que lorsqu'on est comme ça à l'arrière du peloton pendant deux journées très difficiles, on a quand même toutes ses forces pour essayer de s'imposer au sprint?
Je pense que la performance de d'Arnaud Demare hier, surtout dans la dernière ascension, d'ailleurs ce qui a mis en éveil Greipel, démontre qu'il a fini relativement costaud quand même, parce que comme je le disais tout à l'heure, il a perdu à peu près 35 secondes par kilomètre dans la montée, ce qui est une bonne performance, mais c'est vrai qu'on l'avait vu gérer dès le départ, il s'était laissé décrocher dès le départ de façon à ne jamais rentrer dans des filières énergétiques rapides. Donc il a fini relativement costaud hier, ce qui veut dire que aujourd'hui il devrait logiquement avoir de très bonnes jambes. Et puis je crois que la façon dont il a fini, sur le plan du psychologique, sur le plan de son mental, ça a quand même dû le régénérer.
Fran, tu confirmes? Régénérer, oui. il peut gagner l'étape aujourd'hui.
Oui, bien sûr. S'il n'a pas trop puisé dans ses réserves hier, effectivement, il a fait une ascension largement honorable et
correct.
Ouais, et je comprends qu'André Greipel ait pu tweeter son tweet parce que il sait ce que c'est lorsqu'on est un grimpeur de près de 80 kilos, d'aller monter un col hors catégorie, et lui peut-être n'est pas capable de ne lâcher que 9 minutes sur un grimpeur de la trempe de Nairo Quintana sur une ascension telle que le col du Portet. On ne sait pas dans quel état sont Alexander Kristoff et Peter Sagan. Ce qui est sûr, c'est que en fin de troisième semaine, les écarts, les différences sont parfois nivelées. On joue davantage sur la fraîcheur. C'est comme un chrono de fin de tour, de veille d'arriver sur les Champs-Élysées. Les valeurs intrinsèques ne sont plus forcément celles sur lesquelles il faut se baser pour établir soit un pronostic, soit juger une performance. Il y a la fraîcheur, il y a la force mentale aussi, la fraîcheur mentale quelque part, qui joue. A-t-on encore envie de se bagarrer autant que lors de la première semaine d'un Tour de France? Il y a des ressorts qui interviennent et qui n'étaient pas en jeu en première semaine du Tour. Peut-être qu'Arnaud Demare sera davantage performant sur un sprint en fin de troisième semaine du Tour dans la chaleur que lorsque tout le monde était là, tous les fauves étaient lâchés, les Gaviria, les Groenewegen, les Cavendish, les Kittel, les Greipel, les Sagan et tous les autres. Là, face à lui, en cas d'arrivée au sprint, car rien n'est sûr dans cette arrivée qui se profile à Pau dans 76 km maintenant, face à lui, il aura pour adversaires principaux a priori Peter Sagan, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, Sonny Colbrelli qui a déjà fait 2x2 depuis le départ du Tour. Autre adversaire, attention, Alexander Kristoff qui l'a sauté l'autre jour en direction de Valence. Kristoff qui avait fait deuxième derrière Peter Sagan. Ce sera à peu près tout a priori comme
Christophe Laporte peut-être.
Christophe Pourquoi Laporte pas. Effectivement, là aussi il sera question de récupération, de fraîcheur et de force mentale. On a hâte de voir ce que cela donne en tout cas pour cette avant-dernière a priori arrivée au sprint, puisqu'on vous le rappelle, dimanche a priori ce sera à nouveau comme chaque année le championnat du monde des sprinteurs sur la plus belle avenue du monde.
Et on aimerait bien voir quand même un autre Français mettre son nom au palmarès d'une étape de ce Tour de France. On rappelle que seul Julien Alaphilippe a brillé côté français en remportant deux étapes et en portant le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. Pour le reste, c'est un peu maigre, hein, le chat est maigre, Jérôme.
Pour l'instant, en tout cas, on espère aujourd'hui. Alors, j'ai été vers le bus de la FDJ ce matin et en tout cas, le moral était au beau fixe. J'ai croisé Marc Madiot de très très bonne humeur. Donc, je pense qu'il a réussi à, comme il sait si bien le faire, à transmettre son énergie positive aux coureurs. Et voilà, il était de bonne humeur et toute l'équipe, même le staff et tout. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un bon signe pour Arnaud aujourd'hui.
On l'espère évidemment. Quels sont les autres Français qui pourraient briller d'ici l'arrivée sur les champs dimanche, Cyril? Est-ce qu'il y a d'autres Français qui peuvent envisager de remporter une étape?
Bon, ça me paraît difficile en cas d'arriver au sprint. Sortir dans le final, ce sera très très difficile aujourd'hui, pour ne pas dire impossible. Mais bon, il faut peut-être tenter, je ne sais pas, mais tenter de sortir pour certains coureurs, comme pourrait le faire un Chavanel par exemple, soit à 1,5 km, soit à 800 mètres de l'arrivée, c'est toujours possible. Mais depuis quelques temps, enfin depuis quelques années même, ça arrive rarement qu'un coureur, on l'a vu Philippe Gilbert il y a quelques jours, tenter à Valence d'ailleurs, tenter de sortir aux 800 mètres. Pratiquement, les trains tels qu'ils sont organisés aujourd'hui ne permettent pas à un coureur de sortir dans le dernier kilomètre ou à la flamme rouge et de pouvoir aller à la gagne. Ce qui était possible il y a quelques, on va dire il y a une vingtaine d'années, ne me paraît plus possible aujourd'hui. Donc il faut compter sur nos sprinters.
Les sprinters, donc aujourd'hui et dimanche, peut-être Arnaud Démare et Christophe Laporte. Pour le chrono, Pierre Latour est champion de France, mais on l'imagine mal quand même remporter le chrono de samedi.
Remporter, ça va être dur. J'ai appris ce matin qu'il devrait avoir un nouveau vélo, spécialement pour ce chrono. Donc est-ce que ça lui donnera des ailes? On espère. Alors gagner, ça va être un peu juste face à des coureurs comme Dumoulin, Froome ou Geraint Thomas. Mais en tout cas, faire un bon chrono et prendre de l'expérience pour l'avenir.
Voilà. Et puis, pour le reste, peut-être demain, avec une nouvelle étape de montagne, Romain Bardet, Warren Barguil, Alaphilippe. Là, les cartes sont peut-être un peu plus nombreuses, Fred.
Oui, effectivement, c'est la dernière étape pyrénéenne, la dernière étape de montagne demain. Et pas la moindre, loin de là. Il y aura 200 km au menu entre Lourdes et la Reims, avec tout de même des ascensions très prestigieuses. Le col d'Aspin à partir du 70e kilomètre, que le peloton enchaînera avec le col du Tourmalet, évidemment classé hors catégorie légende du Tour de France. Et puis le final de l'étape proposera aux rescapés du Tour l'ascension du col des Bordères, classé en deuxième catégorie, mais aussi et surtout le col d'Aubisque via le splendide et très photogénique, télégénique même, col du Soulor, avant la descente, une descente longue de près de 20 km en direction de la Reims. Effectivement, on envisage pourquoi pas une victoire d'étape française à la Philippe, peut-être pas, mais pourquoi pas Warren Barguil au terme d'une échappée au long cours, ou effectivement rêvons tout haut, Romain Bardet qui profiterait de ce final en descente pour aller chercher quelque chose d'honorable et un lot de consolation, un très très beau lot de consolation, lui qui, on voulait rappelle, ces deux dernières années a eu l'honneur et le mérite de monter sur le podium aux deuxième et troisième marches respectivement ces deux dernières années. Et du coup là il est huitième du classement général, Romain, et il a tout intérêt à jouer le tout pour le tout, parce qu'à quoi bon viser un top 10, sécuriser un top 10 si l'on a la possibilité d'aller remporter une étape, quitte à tout perdre. Jérôme, tu confirmes?
Ouais, je confirme. Après, faudra voir s'il a récupéré ses jambes. On a vu hier, bon, peut-être dû à une hypoglycémie, mais qu'il était un peu moins bien que les autres. Donc, s'il a récupéré, ça sera jouable pour lui, hein. Et pour revenir sur l'étape d'aujourd'hui et les sprinteurs, voilà, Christophe Laporte affiche ses ambitions. Il envoie un coureur, Anthony Pérez, pour assurer la poursuite avec l'équipe d'Alexander Christophe et d'Arnaud Démare. Donc, signe que les jambes doivent être bonnes pour Christophe Laporte. Et c'est plutôt bon pour les sprinteurs français.
Bon, pour avoir un Français sur le podium, ce sera compliqué en revanche, puisque Romain Bardet, on vous le rappelle, a dégringolé de 3 places au classement général. Il est désormais 8e après sa défaillance d'hier. On va écouter Romain Bardet qui reste concentré sur ce Tour de France et qui espère que demain, il va avoir sa chance pour aller décrocher, pourquoi pas, une étape. Romain Bardet.
Moi, j'ai envie de me projeter sur demain. On aura beaucoup de temps en août pour analyser tout ça et se poser les bonnes questions. Maintenant, il reste encore du Tour de France, des journées à faire. On n'a pas baissé les bras et continuer avec l'esprit conquérant qui nous anime. Non, il n'y a pas d'excuse à se chercher, c'est un état de fait, c'est comme ça. On sait que le Tour de France, ça n'allait pas être facile, quoi qu'il en soit. Et maintenant, il faut faire avec et il faut continuer à se battre pour pas avoir des remords derrière. Et voilà, il reste encore une belle étape demain. On espère qu'il va y avoir des grands chambardements et être surtout acteur et prendre du plaisir, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaisir dans son sport.
Voilà, il se cherche pas d'excuses, Romain Bardet, Cyril, mais bon, on l'a rarement vu comme ça dans... victime d'une défaillance comme ça a été le cas hier. Il n'est pas dans le coup depuis le début de ce Tour de France. À chaque fois que les étapes se terminaient en montée, il avait du mal. Et là, ça a été la preuve définitive hier.
Oui, à l'exception de l'Alpe d'Huez où il a été très bon. Sur Mur de Bretagne, malheureusement, il a eu un incident mécanique dans la dernière ascension du mur. Le reste du temps, il a été au niveau des meilleurs, mais dans l'incapacité de passer le petit cran au-dessus. Et hier, hier, il ne se cherche pas d'excuses. Je trouve ça bien, moi, que des coureurs ne cherchent pas d'alibi à leur contre-performance, à leur défaillance, ou à éventuellement certaines erreurs de course qui auraient pu leur coûter la victoire, par exemple. On est toujours responsable de son destin et il l'assume. Il ne cherche pas d'explications. son ton est quand même relativement triste, presque désabusé,
résigné.
Peut-être même résigné.
Quand on mise toute sa saison sur le Tour de France, qu'on espère monter sur le podium.
Oui, mais il est clair, il dit bon, je cherche pas d'excuses, point. Je trouve qu'il faut noter cette sincérité.
Même si hier soir il évoquait, il disait j'ai manqué de sucre. Jérôme, explique-nous.
Eh ben, sûrement un problème d'alimentation, un manque d'alimentation. C'est un peu le piège de ces étapes courtes. 65 kilomètres, ça va à fond toute l'étape. On se dit, ben voilà, j'ai assez d'énergie, j'ai assez de carburant pour tenir toute l'étape. Ça roule vite, on met pas trop la main à la poche, on boit un peu moins. Et voilà, c'est de l'énergie qui nous manque dans le final. Il l'a dit, il a eu des maux de tête, des visions un peu troubles. Donc c'est plutôt les signes d'une hypoglycémie. C'est une petite erreur, mais ça arrive. Mais en tout cas, il en assume les conséquences. Il se cherche pas d'excuses, comme a dit Cyril. Et ça, c'est les signes des grands leaders.
Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre aussi les limites de la maigreur des coureurs du peloton, Cyril, hein, Romain Bardet, tout comme Christopher Froome, tout comme les autres, est particulièrement maigre. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas aussi taper dans la puissance d'un coureur à force de maigrir?
Dans la puissance, dans la réserve de graisse, et par voie de conséquence, dans le recrutement de la graisse pour le transformer en glycogène, oui. Maintenant,
il n'est pas le seul.
Un des premiers qui est arrivé comme ça, c'est quand même un ancien vainqueur du Tour, c'est Wiggins, où il n'y avait plus que les os et la peau. Mais apparemment, ça marche, puisqu'on gagne le Tour dans cette configuration-là. Maintenant, je sais qu'il y a de vrais débats sur ce sujet
au sein de l'UCI,
mais au sein des médecins de médecine sportive, et qui se posent la question, effectivement, de cet excès de maigreur qui peut, quelque part, mettre en danger la santé de l'athlète.
Ça ressemble à de l'anorexie, hein, comme on l'a connu il y a quelques années lors des épreuves de saut à ski, Jérôme, un monde que tu connais bien, le ski de fond, où là les sauteurs à ski étaient particulièrement maigres. Aujourd'hui, les coureurs cyclistes sont dans la même situation et on essaye de maigrir le plus possible pour faire le Tour de France. Ils ressemblent pas à des athlètes de haut niveau quand on voit les coureurs du Tour de France finalement.
Non, pas vraiment. C'est vrai que pour jouer le classement général d'un grand tour et encore plus le podium, les athlètes flirtent un peu avec l'anorexie, mais forcément, faut pas avoir des kilos en trop. On n'a pas envie de traîner une charrette dans un col, donc on arrive vraiment maigre. Alors c'est voilà, les pourcentages de matière grasse sont très bas, tournent autour de 5-6%. Donc, mais voilà, c'est un peu la problématique du cyclisme. Il faut pas avoir de surpoids. Il faut être maigre. Des fois, comme l'a montré la défaillance de Romain hier, et ben c'est un peu préjudiciable. Mais ça fait partie du métier, et c'est comme ça. Alors déjà les cyclistes, on est tout maigre, on est chétif, on a des marques de bronzage pas terribles, on ressemble pas à des athlètes de haut niveau déjà de base.
Vous avez le moteur, on peut pas vous l'enlever. Hein. Mais tu me montrais hier, Jérôme, une photo de Geraint Thomas lorsqu'il a débuté sa carrière professionnelle de coureur professionnel dans les rangs de l'équipe Barlow World, et je l'ai pas reconnu. Et tu m'as dit devine qui c'est, et j'ai pas réussi à trouver. C'était Geraint Thomas avec des joues, de bonnes joues. Hein.
Bien sûr. Alors
il buvait
après,
de la bière à l'époque.
Bien sûr, il buvait de la bière. J'espère qu'il en boit toujours un
oui,
peu.
Oui, il en boit toujours. Ouais.
Mais en tout cas, à l'époque, il était sur piste, donc le poids a un peu moins d'importance. Au contraire, on a vu quand Wiggins a arrêté sa carrière, qu'il s'est attaqué au record de l'heure, il avait repris 7 à 8 kilos, il disait. Mais après, quand il s'est mué en coureur de course par étape et en coureur de grand tour, il a dû perdre du poids parce qu'il faut bien grimper les bosses. Donc voilà, après, c'est normal qu'il y ait eu une transformation, que ça soit pour Wiggins ou pour lui, et qu'ils aient approché ou flirter du moins avec l'anorexie, parce que voilà, on n'a pas le choix si on veut gagner un grand tour, malheureusement.
Après, le mot anorexie est un peu dérangeant.
On s'approche de l'anorexie. On flirte avec l'anorexie.
C'est une vraie maladie, l'anorexie, et je pense pas qu'on puisse être cycliste professionnel en étant atteint de cette maladie qui est l'anorexie. On dépense tellement d'énergie quand on passe 4, 5, 6 heures à pédaler que forcément on a des repas conséquents, et Romain Bardet mange très raisonnablement, oui. Il s'envoie des plâtrés de pâtes comme tout le monde.
T'as raison de préciser.
Voilà.
Mais vu la dépense de calories par jour, heureusement qu'il mange des pâtes le soir.
Par contre, contrairement aux idées reçues et à ce que les gens pensent, on perd pas beaucoup de poids sur un Tour de France. Hein. Faut bien le savoir, les coureurs arrivent déjà à leur poids de forme, et sur les 3 semaines, il y a très peu de coureurs qui vont perdre plus d'un kilo. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs Tours de France, je perdais 500 grammes à peu près. Donc après,
On perd pas énormément sur un Tour de France. Mais alors, vous êtes tellement à la limite déjà que.
Ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent ah mais vous devez perdre 2, 3, 4 kilos. Non, si on perd 2, 3 kilos, c'est qu'on est arrivé déjà un peu trop gros. Alors quand on est grimpeur, c'est pas possible. Ouais. J'ai une anecdote là-dessus avec Valverde. À une époque, il était arrivé avec 2 kilos de plus au départ du Tour en pensant les perdre dans les 10 premiers jours sur les étapes un peu de plaine. Il a fait mauvais tous les jours, il a pas perdu ses 2 kilos, il les a traînés dans la montagne.
Alors il y a le directeur médical de l'UCI, Xavier Bigard, qui expliquait à nos confrères du Monde il y a quelques jours qu'il s'inquiétait aussi de la prise d'hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle le lévothyrox, qui est utilisé par beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de thyroïde et qui sont donc prescrites pour des patients qui souffrent d'insuffisance de la glande thyroïde, mais qui sont utilisées, paraît-il, aussi par des coureurs cyclistes pour justement maigrir, Cyril. Est-ce que ces produits qui sont en vente libre et qui sont autorisés, qui sont pas considérés comme des produits dopants, devraient être interdits pour les coureurs cyclistes, en tous les cas pour ceux qui ne souffrent pas de la thyroïde?
Écoutez, je connais pas ce dossier, donc je vais m'y attacher. Je vais m'y attaquer. Alors, il est vrai que... On cherche toujours à trouver des méthodes pour arriver de façon artificielle avec des produits éventuellement non interdits ou non dopants. Oui, c'est de la recherche qui est faite, malheureusement pas par les athlètes, qui est faite par les médecins, faut quand même le dire. Et c'est pour ça qu'il faut aussi quelquefois se méfier des médecins, y compris des médecins d'équipe, qui sont à la recherche de méthodes ou de posologies légales, on va dire, non interdites pour arriver. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont dangereuses. Mais pour revenir à ce que disait Jérôme tout à l'heure par rapport à Valverde, alors d'abord, lorsqu'on arrive au départ du Tour, on doit être à son poids de forme. Et si on est à son poids de forme, on peut pas perdre plus d'un kilo sur les 3 semaines avec une alimentation normale. Je me souviens le premier tour que Indurain va perdre. Quand je l'ai vu le premier jour, je savais qu'il ne pouvait pas gagner le tour.
En 96. Ouais. Après ses 5 tours de France.
Après ses 5 tours de France. Et quand je l'ai vu au départ du tour.
Trop gros?
Oui, là c'était, il avait à peu près, 2 à 3 kilos de trop. Il les a jamais perdus. Et 2 ou 3 kilos de trop dans un col, pour revenir à l'importance du poids, j'ai d'ailleurs des barèmes, je crois que je les ai laissés dans ma valise, j'ai des barèmes sur l'incidence d'un kilo de poids sur une montée de col, c'est énorme. Et donc là, il avait 2 à 3 kilos. Alors, là où il passait quand il était véritablement à son poids de forme, avec 2 kilos de trop, il sautait. On avait le même problème avec Fignon, qui lui avait, pour d'autres raisons, des petits problèmes de rétention d'eau. Quand il était à 76, il pouvait pas jouer. À 75, il passait l'école en tête.
Oui, ouais. Et puis en règle générale, surtout sur une course de ce niveau et de cette exigence, on ne vient pas sur le Tour de France pour perdre du poids. C'est la fameuse dichotomie, vous connaissez peut-être ces deux phrases. Lorsqu'on est coureur en forme et coureur tout court même, on mange pour rouler, et quand on n'est pas coureur, on roule pour manger. Et cette bascule s'effectue vraiment.
J'ai choisi mon camp.
Voilà, lorsque vous roulez pour pouvoir manger, vous êtes encore un cyclo ou vous êtes un coureur de niveau moyen qui ne vise pas la performance, qui vise à
un
faire
cyclo.
Du poids. Exactement, c'est bien ça. Par contre, quand vous commencez à être en forme et quand vous allez titiller la performance, là, vous mangez pour rouler et pour rouler le plus rapidement possible.
Jérôme, ça doit être une sensation d'euphorie d'être très très léger dans l'école, de sentir qu'on a tous les kilos superflus ont disparu et qu'on est vraiment à la limite. On doit se sentir d'une légèreté totale.
Ouais, on a quand même mal aux jambes, je te rassure.
Bien sûr, bien sûr.
Mais tu pourrais essayer d'ailleurs pour voir et nous dire tes sensations. Non, mais le vrai problème sur le tour, c'est qu'il y a la logique des vases communicants. Les coureurs qui perdent du poids, ce sont les suiveurs qui les récupèrent.
C'est ça, exactement. On les donne gracieusement aux suiveurs, aux assistants et aux directeurs sportifs.
Si vous pouviez les garder, ça nous arrangerait. Très bien. Il reste 64 km avant l'arrivée de cette 18e étape où il ne se passe pas grand chose. Fred, on rappelle tout de même qu'il y a 5 hommes en tête, mais qui ne parviennent toujours pas prendre beaucoup d'avance.
Et pourtant, il s'emploie. Il y a véritablement une course aujourd'hui sur cette 18e étape du Tour. C'est une étape tracée comme une étape de transition, mais ça roule très très vite à plus de 44 km/h de moyenne. D'excellents rouleurs à l'avant de la course. Les deux Australiens Heyman et Durbridge pour l'équipe Mitchelton Scott. Le grand Belge Van Kersbulk pour l'équipe Wanty Group Gobert. Niki Terpstra, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, coureur de l'équipe Quick-Step. Et puis un Français, Thomas Bouda, il va vite au sprint, mais il se lance de loin aujourd'hui en direction de Pau. 64 km à parcourir et le peloton laisse ses 5 échappés là à distance raisonnable. 1 minute 20 de retard pour le peloton à 63 km de l'arrivée désormais.
Il est 4h30, vous réveillez de la sieste, restez bien réveillés parce qu'on va s'approcher quand même de l'arrivée de cette 18e étape et on espère qu'il va se passer des choses avec notamment peut-être tout à l'heure un sprint massif. Et Arnaud démarre, qu'on espère voir lever les bras en signe de vainqueur tout à l'heure dans un peu plus d'une heure, une heure et demie. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h31 sur RMC, toujours en direction de Pau pour la 18e étape de ce Tour de France, étape de plaine aujourd'hui. Les montagnes, on les a laissées derrière nous et on les retrouvera demain pour la dernière étape de montagne du Tour de France entre Lourdes et la Reims. La bagarre, la dernière grande bagarre de ce Tour, avant peut-être aussi une autre bagarre dans le contre-la-montre samedi au Pays Basque. 61 km et toujours cette avance minime pour les 5 hommes de tête qui ne possèdent qu'une minute 25 d'avance sur le peloton qui continue de tenir en laisse ses échappés. On va aller retrouver la moto RMC si Pierre-Yves ne fait pas la sieste. Bon, a priori, il est bien réveillé derrière Marco, tranquillement installé dans la roue des 5 hommes de tête ou même devant, parce que 1 minute 25, il n'y a pas beaucoup d'écart. Est-ce que les régulateurs vous ont laissé passer derrière l'échappée?
Pour l'instant, on peut rester derrière les échappés, effectivement, mais parce que tout le monde se doute aussi qu'il y aura cet écart-là jusqu'à à peu près... Bon, allez, 30 km de l'arrivée. Marco qui me fait signe de faire passer les motos qui sont derrière parce qu'on va essayer de s'approcher de la voiture Direct Énergie du directeur sportif Dominique Arnaud qui est là. On va aller le voir. Il nous a demandé d'ouvrir la fenêtre.
Ah. La fenêtre a coupé le micro.
Micro allergique à Dominique Arnaud, semble-t-il.
Le micro
est coupé.
C'est arrêté. Coupé.
Dominique Arnaud, ah, voilà, qui est à côté de nous. Dominique, je vais te laisser le micro. Fait meilleur dans les voitures que dehors, hein, c'est ça.
C'est clair que nous, on est au frais dans la voiture. Dehors, c'est température de 35 degrés, ressentie pas loin de 40. Donc, c'est quand même une étape très chaude et très usante.
Ça veut dire que Thomas demande régulièrement des bidons. Là, on voit les voitures qui remontent régulièrement à l'échappée.
Oui, effectivement. Et on a aussi des poches de glaçons, hein, pour le rafraîchir. Voilà. Donc, c'est vraiment une grosse journée étouffante aujourd'hui. Voilà, maintenant, il reste un peu plus de 60 km de course.
L'objectif, peut-être, c'est d'espérer que derrière, ça coince un peu, qu'il se passe quelque chose pour que Thomas puisse se retrouver dans ce petit groupe. On connaît ses capacités sur le sprint.
Oui, bien sûr. Thomas a trouvé l'ouverture aujourd'hui. Hein. On sait très bien qu'il a une bonne pointe de vitesse, mais pas pour battre des coureurs comme Arnaud Demar ou Alexander Christophe. Voilà, maintenant, ils sont 5 à l'avant avec beaucoup de coureurs d'expérience. Hein. Il y a quand même deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. Ils ont beaucoup d'expérience et ça va pas être simple pour le peloton pour revenir sur ces 5 coureurs de tête.
Ce sont des grands gabarits avec Thomas Bouda, vraiment des garçons qu'on connaît sur les classiques. Ça lui permet de s'abriter un peu mieux du vent. Quel est le bilan actuellement pour l'équipe Direct Energy? On dit évidemment que du côté des équipes françaises c'est un petit peu décevant parce qu'il n'y a pas eu de victoire pour le moment. Quel bilan vous tirez de votre côté avec Lilian Calmejane qui a tenté des choses, ça n'a pas forcément fonctionné?
Il est clair que le bilan, bien sûr, on n'a pas gagné d'étape, mais on est omniprésent depuis la première étape. On sait très bien pour l'équipe Direct Energy, en tant qu'équipe de baroudeurs, pour pouvoir gagner une étape, on doit partir de loin. On n'a pas de coureurs capables de gagner au sprint. Voilà, maintenant on tente tous les jours, on est omniprésent. Et je pense que pour l'instant on fait un bon Tour de France. Maintenant, la victoire d'étape, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Elle viendra peut-être aujourd'hui, elle viendra peut-être demain, on ne désespère pas.
Merci beaucoup Dominique. Merci. Et bonne suite d'étape. Évidemment, au frais, vous pouvez refermer la fenêtre.
Et vous, vous restez dehors à la chaleur, mais avec le petit vent qui vous rafraîchit, Pierre Rivet et Marco. La chaleur, on commence à en parler dans ce Tour de France. On va refaire un petit coup de musette, tiens, un petit coup d'accordéon pour accueillir Jean-François Patureau qui nous rejoint. Lui aussi était au départ tout à l'heure, l'un de nos reporters. Ça va, Jeff?
Ça va pas mal, et toi?
Bon, t'as pas fait d'hélicoptère, toi, comme...
Non, non, il y en a qui bossent.
Des nouvelles de Yann Pécheral, d'ailleurs?
Oui, il va bientôt arriver. Normal.
Il va bientôt arriver, d'accord.
Il est sur la route.
Il a bien mangé, il a bu quelques coupes de champagne à la différence des autres
warriors.
Il va
nous faire un beau sujet surtout. Ouais.
Ben oui, j'espère. Demain, il va dans la douche. Hein.
Il a pas l'air très très content.
Il n'est pas motivé, non. C'est marrant ça. Tout ce qui brille, ça l'intéresse, mais le reste, c'est un peu moins. Alors Jeff, la chaleur, on en parlait il y a quelques instants avec Dominique Arnoux. Elle commence à faire parler beaucoup dans le peloton parce que les températures aujourd'hui sont très élevées et c'est pas la première journée.
Mais c'est vrai, aujourd'hui il fait très chaud aujourd'hui, ici environ 31 degrés à Pau, c'est considérable. Faut rappeler qu'hier, qu'on est monté au sommet à l'arrivée avec Yann Pécheral, ça avoisinait les 17 degrés. Autant dire que la température est franchement plus chaude aujourd'hui. Faut prendre des dispositions. On parlait de poches pour les coureurs avec des glaçons ce matin à la Groupama FDJ. C'était des collants dans lesquels on mettait des glaçons pour rafraîchir les coureurs. Aujourd'hui, c'est très important. Il faut s'hydrater, Christophe, de l'eau, évidemment. Je parle pour toi. Pour les coureurs aussi, et le médecin Jacques Maillot de Groupama FDJ nous expliquer comment il fallait s'organiser.
On consomme énormément, donc avant et après, bien sûr, une bouteille et demie à deux bouteilles par heure de course. Donc voilà, les journées comme aujourd'hui sont à peu près à une dizaine de litres d'apport, toutes boissons confondues. Là, des températures comme ça, donc vu les efforts, des étapes comme hier aussi ou avant-hier, ils perdent jusqu'à à peu près donc un litre de sueur par heure de course, à peu près. Et on n'arrive jamais à compenser toutes les pertes. On comprend, c'est à peu près la moitié. Donc, on a intérêt à, bien sûr, assurer une bonne hydratation avant, une bonne hydratation après.
10 litres par jour, c'est considérable quand même. Bon, pour rassurer un peu tout le monde, samedi, on arrive au Pays Basque, il fera 22 degrés et de la pluie. Je connais bien cette région,
ah oui,
et c'est possible.
Tu es originaire de cette région, Jeff,
oui.
Effectivement. Donc, il y aura moins de déperdition d'eau samedi. Jérôme, on en parlait tout à l'heure, on perd très peu de graisse pendant le Tour de France, à peine un kilo, mais c'est vrai que tout au long de la journée, on perd de l'eau qu'on rattrape en buvant, forcément. Hein.
Ah, bien sûr, et il faut la rattraper, parce que si on se déshydrate, on perd énormément... Enfin, on diminue nos performances pour les jours à venir, donc les jours suivants, c'est vraiment important de bien s'hydrater. Donc il y a les boissons de récupération, les boissons énergétiques pendant la course. Il y a très peu de coureurs maintenant qui boivent que de l'eau parce qu'on sait que ça apporte pas assez de nutriments.
Qu'est-ce qu'on boit alors?
Bah des boissons énergétiques, ça dépend des équipes, chacun a sa propre marque, mais des boissons d'effort. Donc on a des boissons d'attente avant la course, des boissons d'effort pendant la course et des boissons de récupération de la protéine après l'étape. Et c'est très important de beaucoup, beaucoup boire, parce que quand on termine une étape, un peu comme les pilotes de Formule 1 ou quoi, quand on se pèse tout de suite après l'arrivée d'une étape, on a perdu 2-3 kilos. Alors forcément, c'est de l'eau qu'on va récupérer plus tard, mais c'est important de bien se régénérer.
Jeff le disait, on utilise des méthodes à l'ancienne pour se réfrigérer. Avec
des
collants dans lesquels on glisse des glaçons. Est-ce que toutes les équipes utilisent cette méthode? Même la Sky, ils doivent bien avoir des trucs un peu plus sophistiqués quand même, nos amis anglais.
Non, sur la route, non, je pense pas. Ils utilisent la même chose que nous. Donc voilà, pour les chronos, il y a des gilets réfrigérants que les coureurs enfilent, des vestes avec des glaçons à l'intérieur. Mais sur les courses en ligne, c'est pas possible. Donc voilà, ils prennent des bas de femmes, des collants, ils les remplissent de glaçons. Il y en a dans les musettes d'ailleurs, souvent. Comme ça, on se les met sur la nuque on s'en met un peu sur les bras pour se rafraîchir et voilà, avoir une meilleure sensation, parce que quand il fait chaud, c'est étouffant, c'est très dur de faire des efforts. Donc voilà, là c'est une bonne méthode. Alors c'est à l'ancienne, mais en tout cas elle est efficace.
Et la meilleure méthode, c'est Christophe Riblon qui est plus coureur, qui est dans les voitures. Il a des sièges réfrigérés, comme ça il est tranquille sur tout le chemin en voiture.
Ah, il a un siège réfrigéré pour, ouais, dans sa voiture.
Ça te fait rêver ça, hein?
Ah ouais, ça, Cyril, ça nous plairait ça, un petit siège réfrigéré pour
avec
gagner
un mini bar peut-être.
Avec un mini bar, ouais.
Eh bien, ce serait effectivement très très bien, puisque vous avez l'habitude Frédéric et toi de toujours rouler avec les fenêtres ouvertes, le toit ouvert, ce que je trouve d'ailleurs très désagréable, et je préférerais être rafraîchi effectivement par un siège.
Bon, eh ben, ce sera pas le cas pour toi. Tu vas rester à l'ancienne. Merci, Jeff, d'être venu nous parler de cette météo, de cette chaleur qui fait des siennes, et pas seulement sur les routes du Tour de France, puisqu'on vous rappelle que le nord du pays, l'est et la région parisienne sont victimes de la canicule. On n'est pas encore atteint par la canicule dans le sud-ouest, alors que d'habitude, c'est ici qu'il fait le plus chaud en France. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, même s'il fait très chaud. 56 km de l'arrivée, toujours 1:10 d'avance pour les 5 hommes de tête d'Urbridge, Heyman, Terpstra, Bouda et Van Kersbulk, à combien? 56 km de l'arrivée, 1:13 d'avance. Ils vont se faire rebecter sans doute dans les 30 ou 20 derniers kilomètres de cette étape. On se retrouve dans un instant, il est 16h40 et vous écoutez l'intégrale Tour de France sur RMC.
RMC, intégrale Tour, Christophe Cessieux.
16h44 sur RMC, la 18e étape du Tour de France, à 54 km de l'arrivée à Pau, 1:08 d'avance pour les 5 hommes de tête qui n'arrivent pas à creuser l'écart par rapport au peloton. Un petit tour sur la moto RMC avec Pierre-Yves, 1:09, il va falloir repasser devant a priori, hein.
Ouais, 1:15, c'est toujours à peu près dans les mêmes zones. Le peloton qui surveille derrière avec Groupama FDJ, avec les coureurs également de Cofidis qui viennent porter main forte aux équipes, aux différentes équipes, celle d'Alexander Christophe évidemment, la possibilité pour le champion d'Europe, pourquoi pas, de s'imposer au sprint. Les échappés, eux, qui continuent leur rythme régulier et qui se disent peut-être qu'il y a encore une opportunité si il y avait quelque chose qui venait casser la machine derrière, pourquoi pas, mais ça semble quand même bien mal engagé maintenant à 60 km à peu près de l'arrivée du côté de Pau.
Merci Pierre-Yves. Avant de continuer l'intégrale Tour de France, on va aller faire un petit tour au foot. Et oui, le foot reprend, non plus l'équipe de France, non plus la Coupe du Monde. C'est le deuxième tour préliminaire de l'Europa League et le premier club français à entrer en lice dans cette compétition, ce sont les Girondins de Bordeaux qui affrontent un club nommé Van Pils. Alors je sais pas d'où ça vient, mais Christophe Lenné va tout nous dire. Salut Christophe.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour le premier match officiel bordelais de la saison 2018-2019, Gustavo Poyet aligne Younous Sankaré en attaque pour affronter donc les Lettons de Van Pils. Il sera associé à François Camano devant. Au milieu, le jeune Aurélien Tchouaméni, 18 ans, sera entouré de Lucas Leraguer et de Yaroslav Plazil. Youssouf et Pounji animeront les ailes d'une défense à 5. Pablo Koundé et Lechouk prendront place en défense centrale. Youssouf Sabali, autorisé à se rendre à Naples pour négocier son départ, n'est pas sur la feuille de match. Benoît Costil sera le gardien et le capitaine des Girondins, équipe plutôt prudente qui évoluera en 5-3-2. Cette rencontre a tout du match piège pour Bordeaux. Petit stade champêtre, mais 3000 Lettons chauffés à blanc. Gustavo Poyet a prévenu ses joueurs. Pas question de s'être arraché en fin de saison dernière pour aller chercher la 6e place et se faire sortir en juillet au tour préliminaire. L'objectif, c'est la phase de poule de l'Europa League. En théorie, sur le papier, a rajouté déjà Vukicevic, l'entraîneur monténégrin, on doit prendre une fessée. Reste à le prouver sur le terrain. Voilà, c'est parti Christophe depuis 2 minutes à Ventspils, petite bourgade de 40 000 habitants au nord-ouest de la Lettonie, sur les rives de la mer Baltique, 0-0 donc entre Ventspils et Bordeaux.
Merci Christophe, à tout à l'heure, 16h46, on revient ici sur la route du Tour, Fred avec un invité dans notre camion qui nous a rejoint, ancien coureur, enfin toujours coureur, toujours cycliste coureur, au sein de la formation Vital Concept que tu connais bien, qu'on connaît bien ici, l'équipe de Jérôme.
Oui, il s'appelle Bert De Backer, il est belge flamand pour être tout à fait précis. Bert qui ne court pas le Tour de France, il est consultant ces 3 jours dans les Pyrénées pour la chaîne de télévision flamande Sports, à l'antenne Sport de la VRT. Bonjour Bert, merci de nous rejoindre.
Merci. Oui, c'est amusant d'être ici.
Bert De Backer qui a passé la quasi-intégralité de sa carrière dans l'équipe néerlandaise de Tom Dumoulin, notamment Sunweb. Il est passé pro chez Argos Shimano avant que cette équipe prenne Skill Shimano. Appuie sur ton bouton, voilà. Ton micro est ouvert.
Oui, ouais.
Il faut le laisser ouvert comme ça.
Skill Shimano, ensuite Argos, ensuite Giant et désormais Sunweb. Cette équipe est toujours la même structure. Tom Dumoulin qui fait quelque chose de très beau sur ce Tour de France. Il est deuxième du classement général à 1:59 du maillot jaune Geraint Thomas. Dumoulin qui a déjà remporté un Giro, qui a terminé deuxième du Tour d'Italie il y a quelques semaines et qui est encore en capacité de remporter le Tour de France. Tu es là sur le Tour de France, Berthe, depuis 2-3 jours. Ouais. Est-ce que tu l'as croisé, ton ancien leader néerlandais chez Sunweb?
Oui, je l'ai visité quelques jours passés et il avait le visage d'un mec qui était encore plein d'énergie. Donc, mais la situation est comme ça que je pense qu'il va être dur On doit presque penser à malchance pour Geraint Thomas, mais pas autrement, il va être dur, même quand il a beaucoup d'énergie qui reste dans son réservoir.
Il est pris en sandwich, Tom Dumoulin, hein, au classement
entre
général,
les deux sky,
par Geraint Thomas et Christopher Froome. Parle-nous de ce Tom Dumoulin que nous, on connaît simplement de par son palmarès, de par ses victoires d'étape sur le Tour de France également. Quel type de leader est-il et quelle personne est-il chez lui aux Pays-Bas? Tu es flamand, tu vis non loin de la frontière avec les Pays-Bas. Qui est ce Tom Dumoulin?
Malgré il habite déjà maintenant, où il habite maintenant, mon côté de la frontière.
D'accord. Le bon côté de la frontière.
Mon côté, ou c'est le bon, je ne sais pas. Mais c'est un vrai Hollandais. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il dit aussi. Donc après chaque étape, quand il a quelque chose qu'il n'aimerait pas, il va nous dire et. C'est très facile de travailler avec lui dans le passé.
C'est un garçon discret, hein, qui n'aime pas trop les projecteurs, la gloire. Il est assez effacé, alors que c'est un beau garçon. Il a un palmarès incroyable. C'est un coureur cycliste vraiment de très haut niveau. Mais il n'aime pas trop la gloire et tout ça. On a l'impression. C'est l'impression qu'il dégage en tous les cas.
Oui, il est modeste, mais il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Il a beaucoup de confiance. Donc malgré il est modeste, il a beaucoup de confiance, oui. Ouais.
Le papillon de Maastricht, c'est son surnom. Je crois qu'il aime pas du tout ça. Hein.
Non, pas vraiment. C'est commencé comme une blague au début, mais je ne vais pas dire il le déteste. Mais quand il peut choisir, il préfère on ne dit pas.
Ouais, toi tu l'appelles pas comme ça, par exemple, quand
non.
Tu étais son équipier. Non, non,
non.
Autrement, le leader tape sur les doigts.
Ouais. Il a un surnom, un nickname chez Sunweb au sein de l'équipe.
On l'utilisait le mot papillon,
oui.
Mais en Belgique et en Hollande, on n'utilise pas si beaucoup les nicknames,
oui,
comme en France, parce que pour moi c'était très dur au début chez Peter Concept pour savoir tous les noms.
Oui.
Il y avait beaucoup de nouveaux visages,
oui.
Beaucoup de nouveaux noms, oui. Et après beaucoup de nicknames aussi.
Par exemple, tes patrons, il y en a un qui s'appelle Lapine, hein, c'est Jérôme Pinault. Il y en a un autre, Didier Rousse.
Moi, c'était Gégé.
Voilà, donc, c'est Gégé.
Maintenant, c'est Lapine
Didier
aussi.
Didier Rousse, par exemple, le patron directeur sportif, c'est comment? Comment tu l'appelles déjà, frère?
Rouston.
Rouston,
ouais,
voilà,
ouais.
C'est sympa.
C'est
hein, ça peut avoir des voilà, il faut aussi connaître la signification de ces surnoms. Il y en a d'autres comme ça, Fred?
Bah, Bert, c'est BDB, hein.
BDB.
C'est initial.
Mais normal, le plus facile, tu as plus de chance de prendre le bon nom, c'est prendre les premiers deux lettres et dis deux fois. Donc c'est Lolo, Momo,
oui,
Jojo.
Oui, ça c'est très bien.
Oui, c'est tout le monde.
Et on dit
comme
Bébert,
ça.
Et on dit Bébert pour toi là ou non?
Pas déjà.
Pas encore. Bien, ça fait quoi justement d'être encore coureur cycliste et en même temps consultant? Par exemple, Jérôme a arrêté sa carrière il y a 2 ans, donc aujourd'hui il découvre le métier de consultant, mais il a arrêté sa carrière. Toi, tu es encore sur le vélo, tu n'as pas l'intention d'arrêter tout de suite, dans combien de temps?
Non,
tu sais
pas. Non, pas pour le moment, mais... Maintenant, c'était bien fait dans le planning. J'ai justement fini une camp d'entraînement de 10 jours.
Un stage d'entraînement,
oui. Oui, à Égletton. Ça,
en
c'est 2h30 de Toulouse. Donc, je suis venu le dernier jour de camp directement vers Toulouse. Et le jour après, j'ai commencé ici. Et je ne dois pas faire si beaucoup pendant la journée. C'est surtout dans le soir que je suis présent dans le programme. Mais ça me... Pour moi, c'est plus dur de me reposer que de m'entraîner. Donc, comme ça, je suis un peu forcé de me reposer pendant 3 jours.
Ouais. Et donc là, tu roules pas du tout pendant que tu es sur le
premier jour, j'ai pris un jour de repos. Hier, j'ai couru 30 minutes. Et ce matin, j'ai fait le fitness. Et demain, je suis chez moi. Donc, j'ai fait mon 3 heures sur le vélo.
Voilà. On le disait tout à l'heure, le but du coureur cycliste, c'est surtout de ne pas grossir. Donc, il faut toujours faire de l'exercice.
C'est un truc mental et on pense que on fait mieux quand on fait quelque chose.
Et Berthe est très à cheval là-dessus, je peux vous le dire. Berthe, qui même après sa retraite, après sa carrière cycliste, ne compte pas prendre plus de 2-3 kilos. Hein. Il a déjà son plan qui est établi. Berthe qui nous parlait de Tom Dumoulin, le néerlandais. Cyril, rapidement, est-ce que ce Tom Dumoulin, en ouvrant ton micro s'il te plaît, est-ce que ce Tom Dumoulin te rappelle d'autres glorieux anciens coureurs néerlandais? Je pense évidemment à Joop Zoetemelk.
Il a un
peu effectivement le profil de Joop Zoetemelk dans son comportement, entre autres, un petit peu effacé. Il ne va pas chercher, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est pas lui qui va courir après la caméra de télévision, comme certains coureurs l'ont fait très longtemps dans leur carrière, et ça fait partie de leur personnalité, de leur caractère et de l'image qu'ils veulent donner. Un petit peu aussi à l'image de Zoetemelk, ce n'est pas un coureur qui prend systématiquement des initiatives,
des risques même,
des risques même en course.
Mais tu sais que Cyril Guimard a été le directeur sportif du dernier Belge à avoir remporté le Tour de France.
Lucien Van Nuys.
Tu t'en rappelles de
Oui. Il a aussi porté le maillot des meilleurs grimpeurs, non?
Exactement.
Vainqueur en 1976. Lucien Van Nuys.
Merci beaucoup Bert d'être venu dans notre camion. On te souhaite un bon séjour sur le Tour de France.
Merci
beaucoup. Bons commentaires, et ensuite faut aller gagner des victoires pour participer au Tour l'année prochaine avec Vital Concept.
Ça c'est le grand but.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci
Bert.
Beaucoup.
Avant de revenir sur la route du Tour, un petit détour par le foot. Ventspils opposé à Bordeaux avec l'ouverture du score pour les Girondins, Christophe.
Exactement, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour Bordeaux avec l'ouverture du score, donc des Bordelais dès la troisième minute, un peu moins de 25 mètres, axe droit. Le jeune Zedou Youssouf a fêté son premier match en Coupe d'Europe avec un coup franc magistral enroulé du gauche dans la lucarne droite de Maxime Ouvarenko. On joue désormais depuis 10 minutes 1-0 donc pour Bordeaux. Et pour l'anecdote, Christophe, l'histoire retiendra que Zedou Youssouf est le premier buteur d'un match diffusé sur RMC Sport.
Merci Christophe. 46 km de l'arrivée, on retourne à la moto RMC. Pierre-Yves Leroux à l'avant de la course, 1 minute 20, dernier écart. Ça bouge pas beaucoup cet écart.
Non, écart stabilisé toujours, alors qu'on se dirige dans quelques minutes, un peu plus d'une heure maintenant, à l'arrivée à Pau, toujours 1 minute 15 l'écart entre les 5 hommes échappés et le peloton. On rappelle la présence devant du français Thomas Bouda, des anciens vainqueurs de Paris-Roubaix, Niki Terpstra et Mathieu Heyman. Luc Jordbridge est là également, et Guillaume Van Kersbulk sous 33 à 34 degrés, bientôt dans les Pyrénées.
Et il continue, mais même si a priori ils vont se faire revoir par le peloton, Jérôme, à quoi ça sert de continuer comme ça, montrer le maillot comme ça a été le cas en première semaine du Tour de France?
Un peu, mais après, une fois qu'ils ont décidé de prendre l'échappée, c'est dommage de se relever. Ils ont fait l'effort d'y être, ils sont cinq coureurs, ils s'entendent plutôt bien, faut essayer. Est-ce qu'ils jouent avec le peloton aujourd'hui? Je suis pas sûr. Ils avaient l'air de bien s'employer tout à l'heure. En tout cas, ils ont le mérite d'être devant, le mérite d'essayer. Sinon, quelle étape on aurait eu? Donc ils essayent et ils se font plaisir. C'est toujours plaisant d'être à l'avant d'une étape du Tour de France. On prend un peu tous les encouragements du public pour nous, et je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui allent à l'avant, même si elle est vouée à l'échec.
Vouée à l'échec, Fred, elle est vraiment vouée à l'échec cette tentative là, une 14 à 45 km de l'arrivée, où il n'y a pas de suspense.
Le vrai souci, c'est que ces coureurs sont d'excellents rouleurs, d'excellents finisseurs, capables effectivement à plusieurs de tromper la vigilance du peloton, sauf qu'ils sont échappés depuis plus de 100 km. Donc leur giclette, leur faculté à accélérer fort en fin de course, comme seraient susceptibles de le faire des coureurs comme Jordbridge, Heyman ou encore Van Kersbulk et surtout Niki Terpstra, elle va être un petit peu émoussée dans le final de cette étape. Il reste 45 km à parcourir, 1 minute 20 d'avance, et surtout les équipes de sprinteurs qui sont traditionnellement celles qui décident du sort de l'échappée. Ces équipes de sprinteurs semblent bel et bien décidées à faire terminer cette étape sur un mode sprint massif ici à Pau.
Très bien, il est 16h quasiment 57 sur RMC. On va se quitter quelques instants, laisser passer les infos de 17h, et ensuite on va revenir pour le final de cette étape qui devrait s'achever vraisemblablement aux alentours de 18h. C'est un fait, ça, depuis le début de ce Tour de France, les étapes qui habituellement les années précédentes se terminaient aux alentours de 17h ont pris une heure de retard depuis le début du Tour, mais on les a fait débuter sans doute un peu plus tard. On se rapproche des meilleures heures d'audience sans doute pour la télé. Allez, à tout à l'heure, juste après les infos de 17h pour la dernière heure de l'Intégral Tour de France.
RMC Intégral Tour.